commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'Oriental puis l'Occidental. J'ai aussi essayé le Paléo, le 5-2, le Californien, le Atkins. Des régimes, j'en ai fait un puis un autre. Mais je pensais jamais qu'un jour, je serais rendu au régime forcé.
Le visage de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de Choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de Choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Danscussion à la radio, là où l'on parle de danse, de culture et d'art du mouvement.
Avec les artistes, les travailleurs culturels, les spectateurs, les amoureux du spectacle.
Tout le monde en parle.
Tous les mardis de live sur choc.ca.
Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
Fuck le Tim Horton.
Quoi?
Va donc au Salonger à la place au Salonger. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salonger, c'est la place pour te sustenter.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast. Musique. Découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à Pop en Stock, épisode 121, et ce soir, on parle d'alcool, de boisson. On a eu l'idée de faire un épisode sur ce sujet-là parce que dans quelques jours, voire dans quelques heures, on va commencer à boire des hectolitres d'alcool en vue du temps des fêtes ou pour le temps des fêtes. Et donc, pour bien se préparer, pour comme préparer notre foie, on va faire une émission sur l'alcool qu'on peut aborder de plein de manières différentes. Je trouve vraiment que c'est un sujet absolument fascinant. Donc, je m'appelle Hélène Lorrain et autour de la table, et vraiment, on est placé comme vraiment... La table ressemble à une bouteille, déjà. Ça, c'est comme une spécification de la table de Choc. Il y a Mathieu Perron, qui est doctorant en histoire à l'UQTR, qui travaille sur l'histoire des tavernes au Québec et des lieux de loisirs.
Oui, c'est ça.
Mais qui va nous faire une grande fresque de l'histoire de l'alcool. J'ai super hâte. On a Christopher Chancy, concepteur en jeux vidéo, qui va nous parler de jeux, lui aussi, de jeux d'alcool. Mm-hmm. C'est aussi, j'ai super hâte. Là, j'ai hâte à tout. Rachel Hippolyte, une habituée de l'émission maintenant, qui va nous parler des femmes et de l'alcool, donc l'aspect gender.
Effectivement.
Et Sandrine Galland, une personne qui est une amie dans mon entourage, très souvent, mais qui est venue quelques fois à l'émission. Je suis tout le temps très heureuse de t'accueillir. Doctorante en études littéraires, yes, à l'UQAM. Donc, on va... Sans trop de préambule, on va commencer par la grande fresque historique de, okay, de l'alcool, okay, Mathieu.
OK. Ben écoute, l'étude de l'histoire des sociabilités et des divertissements m'incite à pasticher un célèbre barbu, Marx pour le nommer.
Mon oncle Marx!
Oui, Marx. L'histoire occidentale jusqu'à nos jours est celle des luttes alcoolisées. C'est un peu plus complexe que ça, mais comment faire autrement en 10 minutes, hein? Je me résume donc la question de l'alcool et l'histoire de l'humanité en 3 points. D'abord, l'alcool joue un rôle important dans la structuration du mode de vie sédentaire et dans la mise en place de l'agriculture, de l'élevage de certaines espèces animales. Je pense aux abeilles en particulier.
Explication. Oui, donc, pour qu'il y ait une pollinisation pour les...
C'est plutôt... Pourquoi on élève des abeilles? C'est pour le sucre, et le sucre, c'est la base de la fermentation. Hein. Donc, l'explication. Qu'est-ce que l'alcool, en fait? Essentiellement, c'est du sucre transformé par l'action d'un micro-organisme par la levure. D'une drogue à l'autre, on obtient donc du sucre, on obtient un autre psychotrope qui s'appelle l'alcool. L'un excite, le sucre, l'autre déprime, l'alcool. De là, en fait, une parfaite alchimie, en fait. D'ailleurs, alchimie, alcool, alambic, algèle, almana, algorithme, almanach, artichaut. Oui, tous ces mots viennent d'une même origine arabe, en fait. Donc, c'est du monde islamique au 14e siècle que l'alambic a été introduit en Occident. Du jus sucré fermenté, il était alors devenu possible d'extirper l'esprit ou la vie, d'où eau de vie et spiritueux. Un procédé qui se démocratise et s'industrialise, surtout au 18e siècle. On peut penser au gin, par exemple, mm-hmm. au rhum très populaire ces derniers temps, qui est cocktail.
Donc, il va aussi avec, du coup, de pair avec la révolution industrielle.
C'est un peu même, ça précède, en oui, fait, ah, un oui. peu. Donc, le fin 18, début, milieu du 18e siècle. On a, en Angleterre, on a le fameux okay, gin ouais. craze des années 1720. Donc, bref. Parce qu'en définitive, l'être humain, c'est d'abord un cerveau, et que le cerveau aime beaucoup ça, se péter la face. De temps à autre, l'humain a développé tout plein de manières de produire, de fabriquer des moyens de se saouler. Et ce, malgré le terrible et encore ennemi, la fameuse gueule de bois.
C'est pas agréable.
Non,
c'est de moins en moins facile.
Oui.
Donc, deuxième point, en fait, l'alcool joue un rôle de premier ordre dans l'accumulation des recherches et des fortunes, ainsi que dans la mise en place des circuits commerciaux. Explication. Les céréales, les fruits, le sucre, ben, ça pourrit. On peut pas garder ça internellement. Donc, l'alcool, au contraire, a un effet prophylactique. Il protège des infections. Il est donc possible, à un certain point, de le conserver, de l'échanger, de l'accumuler. Mais il est aussi difficile, dans certains contextes urbains, de le produire domestiquement. Si on retourne un peu en arrière, en Mésopotamie et en Égypte, la bière constitue une forme de rémunération pour les ouvriers et les artisans. Ce sera le cas dans les milieux artisans jusqu'au milieu du 19e siècle. En Angleterre, par exemple, les employés de brasserie seront moins touchés par le choléra dans les années 1830 parce qu'ils ne boivent que de l'eau. Ça fait partie de leur salaire, en fait.
Ils boivent que de la bière, en fait.
Ils boivent pas d'eau.
Donc, dans le fond, si on veut ôter les maladies infectieuses, la bière est une excellente option.
Ça dépend du contexte.
Le cas dont je fais référence, en fait, c'est dans il y a une épidémie en Angleterre en 1835. Donc, il y a une enquête, cette fameuse enquête de John Snow.
La première enquête épidémiologique.
Donc, John Snow, en fait, c'était le chercheur. Il s'est aperçu, en fait, qu'en retirant la manivelle qui permettait de pomper l'eau, il s'est aperçu que dans un quartier, il y avait moins de distribution, il y avait moins de choléra, de cas de choléra. Il s'est aperçu que les buveurs d'une brasserie dans un quartier très touché, eux n'ont jamais été touchés par le choléra. Donc, c'est une déduction, on en mène une autre. Donc, si on reste en lointaine antiquité, il y a plusieurs études archéologiques qui ont souligné l'importance du commerce du vin. On retrouve d'importants dépôts d'amphores et de cratères, donc des grands bols de service de vin, dans tout le monde celte, pré-romain. Certains chercheurs parlent d'action civilisatrice du vin. Bon, faut peut-être pas trop charrier, mais il y a quand même cette idée que dès avant même l'Empire romain, on a une sorte d'union, en fait, de tout le pourtour méditerranéen autour du commerce et essentiellement du vin. Donc, si on avance un peu au 17e et au 18e siècle, le vin, l'eau de vie de vin, et le rhum, donc le distillat du jus de canne, constitue avec les guenilles, donc avec les vêtements et les chaudrons, les principales monnaies d'échange avec les Amérindiens dans le commerce des pelleteries. Donc, on a un autre aspect important de ce lien commercial lié à l'alcool. Tout l'Empire français d'Amérique du Nord, en fait, est fondé sur ce commerce essentiellement de l'alcool, des pelleteries, etc. Les soldats, les marins aussi de cette civilisation en Amérique du Nord, mais consomment énormément de vin, énormément d'alcool de toutes sortes. L'alcool fait partie de leur vie sociale et au quotidien et constitue en fait une partie importante de leur ration. On a plusieurs cas, en fait, de ce qu'on appelait les sociétés des phares dans l'ouest de l'Amérique du Nord, où les commandants qui sont en charge de distribuer la solde, ben vont s'accaparer, en fait, ils vont s'enrichir énormément en monopolisant, en fait, ces soldes, en revendant de l'alcool à leurs hommes. Donc, toutes ces richesses, en fait, tous ces grands seigneurs ou ces grands marchands de la société canadienne de cette époque, bien souvent, ben c'est une forme de... C'est lié au commerce de l'alcool, mm-hmm. aussi, envers leurs hommes. Donc, dernier, troisième point, l'alcool joue un rôle central dans la constitution de l'appareil fiscal des États occidentaux.
Oh, ma foi.
Et dans, oui. et dans la constitution, ultimement, des armées. L'alcool est considéré comme un luxe, et donc dans l'Occident chrétien, et bon, dans la plupart des religions révélées, comme un vice. Il fait pourtant partie de la vie quotidienne. Avant le développement des opioïdes à la fin du 19e siècle, il n'existe pas vraiment d'autres anesthésiens. C'est aussi un supplément calorique important pour une boisson...
Une bière, un steak.
Mais voilà, une boisson sûre, en fait, comme je vous en ai parlé tantôt. Et est-ce qu'on peut considérer à ce point-là que c'est une nécessité, en fait, une nécessité du quotidien? Mais bon, les autorités considèrent que ça reste un vice, donc on peut facilement faire passer une taxe. C'est socialement acceptable, oui, oui. Le terme est à la mode. Donc on peut retirer un fort revenu, surtout dans une société comme au Canada ou au Québec, où il n'y a pas d'impôt sur le revenu, en fait. En France, dans certaines parties d'Europe, on a ce qu'on appelle la taille, qui permet d'imposer directement les revenus de la terre, et on a aussi la gabelle, qui sont des taxes sur des produits essentiels, comme le sel. Mais en Nouvelle-France, ou au Canada, ou au Québec, jusqu'avant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas ça, en fait. On n'a qu'essentiellement des taxes sur les produits d'importation, les produits d'exportation. On a des taxes aussi sur les taxes d'assises, donc sur la production. Essentiellement, ça concerne les brasseurs et les distillateurs. Et les revenus qu'on retire des licences et des permis qui sont émis. Donc, encore une fois, on revient, c'est la boucle qui est bouclée, du consommateur au producteur au producteur, c'est l'essentiel du revenu de l'État canadien et québécois jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, encore une fois, jusqu'envers les années 1890, aussi une des principales produits de consommation, mis à part les vêtements, bien, c'est l'alcool. On n'a qu'à penser, en fait, à ces grands distillateurs ou ces grands brasseurs qui meublent le Golden Square Miles. Mm-hmm. Donc, on parle à Samuel Bronfman, par exemple, ou à John Molson et sa famille, les Dow. Donc, à partir de ces grandes fortunes, en fait, ben, ces grandes fortunes-là se sont surtout développées à peu près à la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 1930, principalement liées à quoi? Vous pouvez me nommer en mille la fameuse prohibition aux États-Unis. Mm-hmm. La fameuse prohibition, en fait, qui leur offre un quasi-monopole sur l'exportation.
Montréal c'est reconnu comme étant vraiment une plaque tournante très importante durant le temps de la Prohibition.
Montréal, Toronto, donc tout ce qui est en fait c'est un lieu de pénétration pour ce qui est des alcools européens. Donc tous les mm-hmm. produits c'est à cette époque-là que le fameux scotch qui est très à la mode. Maintenant, le scotch, donc le whisky écossais, devient à la mode. En fait, on passe par le Canada qui fait partie de l'Empire britannique et on va redistribuer ça aux États-Unis. Mais on va produire aussi énormément à Montréal. La fameuse Seagram,
oui.
va s'enrichir en embouteillant, en produisant du whisky, mais en embouteillant aussi des alcools en vrac des États-Unis, d'Europe pour revendre aux États-Unis. Okay.
De manière clandestine.
Oui. Mm-hmm.
C'est comme ça aussi que je pense que Canadian Club ont fait leur argent. C'était pendant
Canadian Club, c'est exactement ça, en fait. Canadian Club, ça le dit, en fait. C'était une façon de faire de l'argent rapide et très difficilement, en fait, en mettant une bouteille, en mettant Canadian Club, et en embouteillant un peu n'importe quoi, en fait.
Donc, l'alcool a vraiment un rôle... de formation vraiment des sociétés telles qu'on les connaît aujourd'hui, de nos sociétés capitalistes et...
Sociétés capitalistes, de l'État, en fait,
oui.
Au cœur même de notre vie sociale, qu'on va en parler.
Oui, on va en parler. Donc, merci beaucoup, Mathieu.
Ça fait plaisir.
Je me tourne vers Rachel. qui elle aussi a des choses à dire justement par rapport à au rôle de l'alcool dans notre vie sociale et comment on vit. Donc l'alcool et les femmes. Et pour ça, t'es allé voir des rapports de la SAQ.
Oui,
j'ai... La fameuse SAQ.
Quoi? Ouais, c'est ça.
J'ai travaillé là pendant 8 ans à part ça.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Un expert.
Une des autres raisons pour laquelle on t'a invité.
Oui. Non, c'est ça, effectivement, j'ai consulté des rapports annuels de la SAQ. Parce que oui, nous pouvons consulter les rapports annuels, les plans stratégiques de la SAQ.
C'est une société d'État.
C'est une société d'État, donc...
Transparence.
Exact. Et la loi d'accès à l'information fait qu'on a accès à ces documents-là. Et donc, évidemment, qui dit plan stratégique dit plan marketing. Et donc, il y a, dans les plus récents, donc il y a eu le plan stratégique 2010-12 et 2013-15.
D'accord.
Voilà. Et dans ces plans stratégiques-là, en fait... Il y a certaines façons de maintenir la clientèle, dont certaines que vous avez peut-être dans vos poches, qui peuvent être une façon de séduire les femmes. Par exemple, une des stratégies qu'ils voulaient faire, la SAQ, ouais, la Société des alcools, qui se répète dans deux plans de stratégique, donc celui de 2010-12 et celui de 2013-15, était de mettre en place du marketing relationnel, les guillemets, ce qui, en développant, donc, je cite, « en développant des liens interactifs et personnalisés avec un nombre grandissant de clients », fin de la citation, l'aboutissement de ça, et d'où le fait que vous l'avez peut-être dans vos poches, la fameuse carte Inspire de la SAQ.
Le cauchemar des employés de la SAQ.
Ah oui, oui, oui.
C'est terrible. Ça allongeait chaque transaction de 1 minute.
Ah oui.
Au début, là ça va un peu plus vite, là, mais c'était vraiment...
Ben, tu sais, puis c'est ça, donc cette carte Inspire-là qui, donc, cumule tes achats, te permet après ça de faire des demandes personnalisées, ouais. Des recommandations personnalisées, et donc d'avoir une relation client non seulement en magasin, mais aussi en ligne via les promotions qu'on t'envoie. C'est une façon donc de plaire aux femmes. On voit la publicité justement de la carte Inspire avec la fameuse jeune femme.
Oui. Namasté, man.
Ouais, c'est ça, namasté, pis t'es comme ma peste, pis tout.
Mais pour revenir un peu en arrière, il y a aussi... en fait, il y a vraiment une relation compliquée entre alcool et femmes, parce que les femmes, on est souvent dans cette espèce de solution sans issue, là, où on doit être le fun, donc boire, mais pas trop boire pour pas être dévergondé, puis il y a tout le temps cette relation extrêmement...
Que ce soit notre faute après.
Oui, puis c'est notre
exactement,
faute après.
Exactement, tu sais, toutes les questions de la culture du viol, une des choses qui était inscrite dans l'Institut de santé publique du Québec par rapport aux dangers de l'alcool pour les femmes, outre les dangers qu'on pourrait dire plus traditionnels, des nombres de cirrhoses du foie plus élevés...
Des problèmes de santé.
Des problèmes de santé, évidents, le cancer. Etc., etc. Il y avait aussi justement le fait que, étant donné qu'on est plus vulnérable, il peut y avoir aussi des problèmes de relations sexuelles non protégées
et non désirées.
Et non désirées aussi. C'est ce que j'allais dire justement avec de la coercition pas chouette. Puis c'est sûr que de lire ça, moi personnellement, je comprends que cela soit dans le rapport, je comprends que cela interpelle la santé publique, mais en même temps, il y a quand même un certain malaise par rapport à ça, dans le sens où c'est comme de remettre la faute sur les femmes en quelque part. Et donc, mais ils font ils essayent de faire attention, mais c'est très, très peu mentionné, justement, dans le rapport de l'Institut, que dans le fin fond, vous savez...
Tu pourrais renverser complètement. Tu pourrais dire, dans le rapport adressé aux hommes, dire, faites attention, l'alcool peut vous forcer à user de sexe coercitif.
Par exemple, ça
remonte à loin, en fait, ce rapport, en fait. C'est une création, bon, surtout de l'époque victorienne, en fait, la préservation de la femme comme étant protectrice du foyer, des enfants, etc.
Donc pur.
Donc, il faut la protéger aussi. Ben, c'est concomitant aussi avec ces mouvements de tempérance qui apparaissent à partir des années 1830.
Qui ont été très importants au 19e, oui. Tout à fait. Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en même temps aussi, oui, il y a ces mouvements de tempérance-là, oui, il y a la façon de réduire la consommation des femmes en leur mettant une pression sociétale, mais en même temps, les femmes boivent. Il y avait dans les années 60, il y avait déjà, d'ailleurs, c'est une des choses duquel je vais revenir, mais je vais le mentionner quand même. Il y a la pression d'être parfaite dans les années 60, d'être une parfaite femme au foyer, et non seulement donc de prendre des substances psychotropes, il y avait donc l'alcool, qui était souvent pris avec du Valium, ce qui d'ailleurs, en 1978, un cinquième des femmes américaines prenait très souvent du Valium. Et donc, c'était un des médicaments les plus prescrits aux États-Unis dans les années 60-70. On l'appelait la Mother's Little Helper, l'aide de la mère. Là.
Le petit Renault Nez Rouge de la maman.
Psh, soyez dans le thème de Noël! Et donc, il y avait, l'effet d'addiction était moins étudié, un peu plus aujourd'hui, on comprend un peu plus comment il fonctionne, mais il reste que c'était déjà un problème. Dans Mad Men, on le voit, là, dans les séries des années 60, où est-ce que les femmes au foyer étaient dans les maisons et justement prenaient un coup parce qu'il fallait qu'elles maintiennent une image propre d'elles-mêmes, l'image de la femme de ménage parfaite, de la mère parfaite, qui est toujours à côté de son mari, qui lui n'est pas parfait.
Je voulais le mentionner tantôt pendant que Mathieu parlait aussi. Je pense qu'il y a une dimension rendre les gens dociles aussi avec l'alcool. Mm-hmm. Mettons avec les Égyptiens comme rémunération, c'était une forme de bière dans le fond qu'il y avait, je pense. Puis c'était justement pour pas qu'il y ait de révolte, pour pas qu'il y ait de trucs comme ça. Ben on venait déprimer les gens pour dans le fond qu'ils restent dociles. Puis on a un peu ce côté-là aussi quand ça touche à la femme, comme tu l'as dit, mettons dans Mad Men par exemple, qui avait toujours un verre à la main d'ailleurs.
Mm-hmm. Absolument. La femme de Don Draper. Betty, c'est ça, j'essaie de me rappeler de son nom, qui pourtant a été une femme relativement éduquée, qui était consciente de certaines choses, mais qui était, par la société, par la pression de la société, justement, obligée d'être une mère au foyer, en quelque part, et qui compensait par le fait de boire de l'alcool, ce qui est aussi une thèse, le perfectionnisme et tout ça, qui a été développé dans un livre qui s'appelle Drink, qui a été écrit par Anne Dorset Johnson, qui a déjà été une vice-principale à McGill et qui a lâché la direction mcgilloise pour se consacrer à l'écriture, mais qui raconte, elle met en parallèle sa propre histoire personnelle sur le fait qu'elle a glissé lentement vers l'alcoolisme.
Ah, mais je suis vraiment curieuse. Est-ce que tu sais de quelle discipline elle provient comme professeur? Parce que toutes les tâches administratives au gradé doivent être des professeurs à la base.
Oui.
Est-ce que tu le sais?
Je ne le sais pas. Je pense que, elle était dans le Center, c'est dans cette circonstance-là qu'elle avait fait une conférence, le Center for Control Disease, je pense.
OK, parce que c'est quand même assez audacieux.
Oui.
De mettre en parallèle sa propre consommation dans une monographie, de faire de l'auto-ethnographie un peu, surtout
exact.
Pour quelqu'un d'aussi, qui a été aussi haut gradé dans une université d'élite.
N'est-ce pas? Il y en a quand même au moins deux qui sont issus de ça. Bref, oui. Donc, c'est ça. Alors, elle avait justement donc fait ça. Elle a mis à la fois en parallèle sa propre expérience comme qui a glissé lentement vers l'alcoolisme et aussi une recherche beaucoup plus étoffée, très sociologique. En fait, je pense qu'elle est sociologue de formation, très sociologique, où est-ce que elle parle de ça. Et en revenant justement sur sa propre mère qui, dans les années 60, prenait du Valium et en disant, mais dans le fond, l'alcool... C'est notre mother, a little helper de notre génération, parce que, et c'est là toute la construction de son livre, c'est une façon de pallier au perfectionnisme qui pèse sur les femmes encore aujourd'hui, le fait de devoir être...
Les femmes académiques en particulier.
En particulier, tu sais, dans le fond, de devoir être une mère parfaite aussi, pour celles qui ont des enfants, d'être une femme parfaite, d'être une personne, justement, académique parfaite. Et que souvent, ces femmes-là se retrouvaient isolées aussi. Les études supérieures et le monde académique isolent beaucoup. Et que donc, par conséquent, pour essayer de décompresser, se mettent à boire.
Et j'ai une anecdote là-dessus. Donc,
oui,
le PhD dans le monde des... En tout cas, qu'est-ce que j'ai entendu, c'est que PhD, en fait... veut dire pretty heavy drinker.
Ce n'est pas pour rien.
C'est pas pour rien, là.
Oui. Non. Donc c'est ça. Et donc étant donné qu'elle veut le ben pas lutter mais pallier à plusieurs shifts en même temps, se retrouve à boire pour décompresser parce que c'est un moyen qui est facile, parce que de toute
c'est
façon
très disponible, hein,
ben, oui. Qui est très disponible d'ailleurs, l'accessibilité de l'alcool a augmenté, les chiffres de la SAQ et c'est de ça? La de c'est l'Institut c'est... de la santé publique le disent, là.
C'est quand même assez capotant ça de que la SAQ font des rapports tout ça dans le but d'augmenter leur clientèle, c'est quand même
parce que ça, on pourrait reparler de la carte Inspire, hein. Oui. En termes de métadonnées et tout ça, de se demander pourquoi est-ce qu'une société d'État que le monopole veut connaître notre profil de consommation d'alcool. Moi, je trouve ça terrifiant. C'est vrai, la seule carte de points que je n'aurai jamais.
Ils ont vendu ça comme si c'était une carte de fidélité, mais dans le fond, vu qu'ils ont le monopole, il n'y a rien à fidéliser.
Ben non, exact.
C'est vraiment plus une manière de tracker, en fait, exactement exact. Les courants de ce qui se vend, dans quelle période de l'année, pour qu'eux puissent ensuite optimiser leur marketing.
À tous nos auditeurs, je leur conseille de mettre le ciseau dans leur carte.
Puis, et ils ne s'en cachent même pas, là, dans le rapport annuel 2005, d'ailleurs, rapport qui, à 2005? La page 5, 2005-2015. Okay, okay. Dans le rapport, c'est moi qui me suis trompé.
Ça arrive.
Dans le rapport annuel 2015, à la page 5, il y a un énorme imprimé de la carte Inspire, d'ailleurs.
Comme une pub, c'est comme une pub.
Totalement, oui. D'ailleurs, le rapport annuel, c'est vraiment drôle parce qu'il est conçu comme les magazines de la SAQ. Ah, fait que t'as un rapport annuel. Puis là, t'as surprise, augmentation de la clientèle à la page 5, plan marketing à la page 23.
Oh. Je suis mal à l'aise. Ben.
Oui. Je vous le dis que j'ai appris plein de choses.
En même temps, en fait, le lien État-alcool, comme je voulais dire, ça remonte à très loin. Je viens de lire un livre, en fait, c'est Patrick Dillion, The Gin Craze, ça date de...
Sur le gin.
Le Gin Craze, en fait, c'est un épisode de l'histoire britannique où il y a eu une explosion, en fait, de l'offre de distillé, donc d'alcool distillé, de gin, donc une sorte de whisky avant l'heure. Donc, il y avait tellement de consommation qu'il y a eu, semblerait-il, une baisse même du nombre de personnes, une baisse démographique à Londres dans ces années-là.
Donc, plus de morts que de naissances.
Pour faire rapidement, en fait, c'est qu'il y a eu une première expérience. C'est la première expérience en Occident de prohibition. On a essayé de couper complètement la chose. Ça n'a pas fonctionné. Une des grandes raisons, en fait, de ça, c'est que, un, les gens se révoltaient et n'obéissaient pas à la loi, mais on s'est aperçu que l'État aussi a complètement baissé ses revenus, comme j'ai expliqué.
Ah, oui.
Donc, il y a toujours un rapport très incestueux, en fait. Donc, la SAQ, on parle d'un monopole, mais même dans une situation de non-monopole, il y a toujours un rapport très incestueux entre la consommation d'alcool et l'État.
Merci de ce rappel, madame.
Ben oui, de ce rappel historique pour nous dire qu'effectivement, ça ne date pas d'hier. Mais c'est vraiment ça. Puis d'ailleurs, ce que tu remarquais sur à la fois qu'ils font des rapports annuels pour augmenter leur clientèle, une des choses qui est relevée dans le plan stratégique, c'est l'éventuelle baisse de consommation à la SAQ, parce que plus la population vieillit, moins elle boit. Les chiffres le disent, les chiffres de l'Institut de la statistique, les aînés boivent moins que les jeunes. Je pense que c'est une surprise.
Mais pour aider temps, leur rhumatisme.
Oui, non, mais pourtant, en même temps, que ce qui est très étrange, c'est que les aînés boivent proportionnellement moins que les jeunes, mais... Parmi les cas, il y a deux populations dans lesquelles les cas de consommation excessive, la consommation excessive étant 5 consommations par événement ou plus par événement au moins 12 fois au cours de l'année, donc 5 consommations par événement par mois. Là. Les deux populations dans lesquelles la consommation excessive a augmenté, c'est les femmes, une hausse de 47%. Et...
Ça fait du revenu, ça, c'est bon. Non,
les femmes et les personnes de 65 ans et plus, là, où est-ce que ça a doublé, là? Donc, ou quasiment doublé, donc c'est des... malgré tout, en même temps que les aînés boivent moins, mais leur consommation excessive augmente.
Donc, on parle comme plus d'une logique de binge drinking
c'est
chez
ça.
Les vieux.
C'est exact.
Ce c'est très drôle.
Oui.
L'image est là.
Je suis très
j'ai comme des images dans ma tête, puis je ne sais pas. Mais c'est ça. Donc, d'ailleurs, la consommation excessive a augmenté parmi la beaucoup de tranches de la population. Et si la consommation excessive a augmenté en général, c'est à cause des femmes.
Oh, okay. Ouais. Oh.
Si on regarde les statistiques de l'Institut de la statistique du Québec, 79,7% des femmes boivent au Québec. La moyenne est de 82%. Ce qui fait que tout de même que 18% des gens ne boivent pas, on n'y pense pas tout le temps, on va en parler plus tard, mais...
Ça, est-ce que c'est 12 âges confondus ou c'est à partir de 18 ans et plus?
C'est à partir de 12 ans et plus.
12, OK.
Ouais.
Ben, ouais, ouais.
C'est ça.
J'étais pas mal absente à 12 ans.
Non! Mais en même temps, malgré tout, même si 82% et que ça inclut les 12 à 17 ans... Mm-hmm. Il reste que, ben, il y a les 18 à l'âge.
Oui, l'âge du trépas, oui.
C'est cela. Donc, contrairement à 82% dans la moyenne générale, donc des Québécois de 12 ans et plus ayant bu de l'alcool, on considère ces chiffres-là, c'est expliqué dans le rapport de l'Institut de la statistique sur la consommation d'alcool au Québec de 2000 à 2015, on considère ça parce qu'il y a des adolescents qui boivent.
Oui, oui.
Vous avez, je pense, peut-être, tout le monde, je fais des présomptions, commencé à boire avant 18 ans.
Certainement.
Oui. Bon, merci de t'assumer. Au moins quelqu'un, sinon je me sentirais mal.
Les parties d'ado, ça commençait, on avait quoi, 16-17 ans?
Moi, j'avais 17. Après,
ouais, c'est ça, tu sais, puis on buvait de la tornade, je parle pour les...
Jamais.
Quelle horreur.
Jamais.
De la boomerang?
Les poppers.
Non. Mes parents étaient français, donc nous, on nous habituait au vin très rapidement.
Ah, c'est vrai, toi, là, tu sais, toi, t'avais du bon alcool. Moi, j'ai commencé à...
Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, hein, mais...
Culturellement, en plus, en France, ça commence très, très jeune.
Ah oui, nous, à table, oui, très rapidement.
Mais il y a un rapport, en fait, ça, entre la consommation familiale et consommation extra-familiale. Il y a une différence, par exemple, en Europe, entre l'Europe du Nord, où la consommation se fait en cadre plutôt amical, et l'Europe du Sud, où on dit, c'est toujours le fameux exemple de l'Italie, où c'est, ils boivent autant qu'en France, mais ils sont jamais sous, il n'y a jamais de problème. Ben, c'est souvent parce que c'est dans un cadre plutôt familial.
Mm-hmm. Et c'est très désagréable à être sous devant sa mère.
Ben oui.
Disons-le.
Nous ne souhaiterons à personne.
Non. Oui, donc en fait, c'est justement, en parlant du vin, le vin est encore aujourd'hui la boisson préférée des Québécois.
Mais ça, c'est selon qui, là?
La SAQ!
Mais c'est ça, la SAQ, ils vendent juste du vin, pas mal. Ils vendent pas de bière, là. Très, très, très peu
non,
de bière.
Non, mais ils calculent aussi calculent les chiffres de... Oui, oui. Okay. En fait, non, c'est pas vrai, c'est les chiffres du MAPAC. Je m'excuse.
D'accord.
Oui, donc... le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.
D'accord.
Voilà, je mélange mes chiffres parce que j'ai consulté beaucoup de choses. Donc, c'est ça, c'est les chiffres du MAPAC qui relèvent que le vin et la boisson, évidemment, eux autres, ils calculent les épiceries aussi. Là. Le vin et la bière sont pas mal à égalité dans les boissons préférées des Québécois. Outre la bière, c'est le vin qui mène, suivi d'un intérêt grandissant pour les spiritueux, les cocktails, et la SAQ n'a pas oublié cela.
Mais ça doit être un grand vecteur de croissance.
Un énorme vecteur de croissance, et ces derniers étant largement, surtout les cocktails, étant largement achetés par les femmes, une des choses qu'ils ont faites lors du... qui rapporte dans le rapport annuel de 2015, c'est l'établissement de sections claires, spiritueux et cocktails. Maintenant, il y a une section où est-ce qu'on peut trouver très rapidement son cocktail cheap.
La bonne sangria préfète.
Pepito sangria!
Tournage.
Et aussi, donc, en fait, c'est énorme. C'est 664 millions de dollars de spiritueux qui ont été acheté au Québec en 2015. Aussi, un autre des stratégies utilisées par la SAQ, à la fois aussi pour rejoindre des jeunes et des femmes, ce sont l'utilisation des médias sociaux. Facebook, les statistiques de Facebook démontrent que c'est plus souvent utilisé par des femmes. Le contenu est fait plus souvent par des hommes, mais l'utilisation à 60% par rapport à 40% et par des femmes. Et donc, à ce moment-là, d'avoir la communication toujours dans l'optique du marketing relationnel, et aussi une façon de séduire une clientèle. D'ailleurs, petit fait amusant ou pas, ou éclairant, la responsable de la stratégie commerciale de la SAQ est une femme. Elle s'appelle Catherine Dagenais et elle est là depuis octobre 2014, ce qui vient aussi dans le fameux plan stratégique avec cette augmentation du marketing relationnel aussi. Pas mal ça, là. J'ai pas... Ah oui, l'alcool, en fait, tout ce que je voulais dire, c'est que l'alcool, ça paraît pas de même, mais c'est quand même une certaine cause féministe.
Oui, et c'est un... oui, ben, il y a vraiment quelque chose là qu'il faut continuer à explorer, si on peut dire, mais il y a aussi... mais c'est aussi un grand... ben, Mathieu l'a dit, comment dire, c'est vraiment important pour l'État, finalement, puis on en boit en tabarouette de l'alcool.
Ah oui, j'ai pas noté les chiffres, mais c'est hallucinant, puis c'est du de 1,5 à 2 milliards de profits qui se font pour la SAQ, là, donc on en boit de l'alcool.
Moi, je m'interroge, puis je suis le fatigant, je suis historien, donc je regarde toujours en arrière, mais la consommation, les chiffres de la SAQ disent qu'il y a une augmentation chez les femmes dans les derniers, dans les dernières 5-6 ans, c'est ça?
À peu près, oui.
OK. Mais en fait, est-ce que c'est parce que les chiffres, en fait, le permettent? En fait, on peut chiffrer ça maintenant, désormais, tandis qu'avant, cette consommation-là était souvent plus cachée ou était plus...
Oui, probablement. La commission des liqueurs, il y a eu des...
Ben, il y
avait
la distribution avant dans les épiceries, exact. Dans le petit verre de gin.
J'avoue ne pas avoir remonté. J'ai voulu prendre les chiffres les plus récents. Là,
Mais c'est une bonne question au niveau de la méthodologie.
C'est une excellente question, oui. Mm-hmm.
C'est sûr qu'avec maintenant la carte Inspire, on est capable de savoir tout de suite, justement, si c'est une femme ou un homme. Mm-hmm. Avant, c'était probablement des sondages faits par Santé Canada qui se faisaient envoyer dans les ménages. Puis à ce moment-là, ils essayaient d'extrapoler à partir de l'information qu'ils recevaient. Mm-hmm. Puis encore là, sur ces sondages-là, c'est probablement biaisé parce que les gens ne sont pas toujours à l'aise de dire qu'ils prennent de l'alcool. De
non, demandez à n'importe quel médecin, tout le monde ment sur sa consommation d'alcool.
C'est clair.
C'est un vice. Ouais.
On va passer en musique juste pour une chanson. Ça s'appelle Alcool, très simplement, chantée par Marina Foïs dans le film Fille perdue, cheveux gras. Donc, si vous entendez des bruits de film, c'est normal. C'est parce que c'est comme une comédie musicale en film. Et j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle devient de plus en plus bourrée au fur et à mesure que la chanson
roule,
oui.
Deux fois plus de bonheur et deux fois plus d'amis. Deux fois plus de taxis, voire double, ça change la vie. Alcool. Le monde me donne la gueule de bois. Et l'alcool arrange ça. Sans toi pas de Gainsbourg, sans toi pas de Rimbaud. Sans toi on serait contraint de se bourrer à l'eau. Alcool. L'amour me donne la gueule de bois. Et l'alcool arrange ça. Alcool. C'est mon seul grand amour, les autres se sont tirés. Et Christophe, Jean-Louis, et Patrick, et Jean-Guy, et... Alcool. C'est l'alcool qui fait mettre un index. C'est la tristesse.
On est de retour à Pop en Stock, oui. Et Sandrine, t'es là pour nous parler du droit de ne pas boire.
Oui, en fait, je veux vous inviter. Là, on était un peu dans le macro, là, dans le large. Je veux vous inviter à rentrer dans le micro. Je veux que vous me suiviez dans ce petit témoignage-là. Donc, je commence en vous parlant de moi, mais ensuite pour vous parler de quelqu'un d'autre, parce que c'est beaucoup plus facile comme ça. Il m'a fallu attendre 25 ans, je vous dirais l'âge de 25 ans, pour comprendre où se situaient mes goûts en matière d'alcool. Hein. Considérant que j'ai commencé à boire, disons, comme on disait tout à l'heure, régulièrement vers l'âge de 16 ans, ça fait presque 10 années pour apprendre à refuser un shooter dans une soirée. 10 années pour comprendre que si j'étais une fervente amatrice de vin, une passionnée de bière, de cidre, je n'aime...
Passionnée.
Ah, passionnée. Mais vraiment pas, je ne supporte pas les liqueurs, les vins sucrés. Tous les spiritueux. Vraiment. Là, vous allez me dire, ah oui, mais... Non, non. Non, non, j'aime vraiment pas ça.
T'as le droit, Sandrine.
Mais donc, à 25 ans, c'est difficile, ça.
C'est vrai,
mais
je suis
oui,
d'accord.
Mais il fallait que je me rende à 25 ans là, pour dire non, je ne voudrais pas de ton shoot. Bref. Buveuse aguerrie, il m'a fallu toutes ces brosses et ces soirées arrosées pour commencer à comprendre ce que je voulais et ce que je ne voulais pas aimer. Et donc comprendre que je ne devais pas tout accepter. Et surtout que je n'avais pas à justifier ces goûts. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Le droit de ne pas aimer l'alcool. Tout simplement, comme ça. Et de là, j'ai commencé à voir l'immense spectre des pressions sociales qu'entraînent les questions d'alcool. On doit aimer la bonne sorte, le bon cépage, connaître les bons accords, boire-le dans le bon verre, la quantité adéquate, etc. Et question de poser une espèce d'affirmation convenue dont on tourne autour depuis tout à l'heure, disons-le, dans notre société nord-américaine actuelle, on pourrait dire que la norme sociale, ou en tout cas c'est ce qu'il m'apparaît, c'est de boire.
Oui, oui.
Parce que si on a le malheur de s'écarter de cette norme, cette espèce de degré zéro de la consommation d'alcool, si on boit trop ou pas du tout, on devient au mieux une bizarrerie ou au pire un paria, hein, caché cet alcoolique que je ne saurais voir. Moi au moins je bois de manière responsable, je n'ai pas besoin d'alcool, pour moi c'est social, c'est funné, c'est foodie. Bon, ben voilà, depuis 5 ans, je sors avec une personne qui ne boit pas. Et je m'imaginais même pas combien ce simple choix, somme toute, alimentaire, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est recueilli par le ministère des Aliments, là, je sais pas trop comment t'as nommé ça.
Pêcherie, pêcherie et alimentation.
Donc, un choix alimentaire de ne pas consommer, donc, consommer ou pas un aliment, pouvait soulever les passions. Donc voilà, c'est dit, ma blonde ne boit pas. Peut-être êtes-vous déjà en train de vous ruminer des questions dans la tête. Pourquoi? Diète? Intolérance? Est-ce qu'elle fait une cure? Et depuis combien de temps? Rien? Pas une goutte? Jamais? Est-ce qu'elle en a déjà goûté? Peut-être que vous arrêtez là. Vous n'osez pas aller vers les questions un peu inconfortables, hein, parce que vous me connaissez, parce que vous la connaissez. Peut-être parce que vous êtes poli de nature. Mais la curiosité roule quand même. Pourquoi elle ne boit pas? Quand ma blonde annonce qu'elle ne boit pas dans un contexte social, c'est rarement pour faire une annonce ou un statement, se mettre en valeur. C'est vraiment pas son genre. C'est plutôt parce qu'elle s'y retrouve forcée devant l'instance de l'autre X ou Y qu'elle a en face d'elle. Prendrais-tu du vin? Non? Ah, ben j'ai de la bière d'abord. Je peux faire un drink si tu préfères. Ah, comment, du champagne, ça compte pas. T'sais, c'est juste pour célébrer.
Ah, bon.
Tu bois pas? Rien? Bon, ben j'ai de l'eau. Ou tu peux peut-être prendre le jus de canneberge, des cocktails. Donc, vous voyez un peu le portrait. Ça déstabilise.
Ah, totalement. J'ai un de mes amis qui disait justement là-dessus que l'enfer, c'était les autres. Il me citait ça en me disant ça parce que, justement, lui, ce qu'il trouvait pesant, c'était le fait de tout le temps te faire poser des questions puis de tout le temps te faire relancer sur « Ouais, mais bois donc » et tout ça. Alors que ça lui tentait pas du tout. T'sais.
Mais non, puis c'est ça. Puis à force d'être à côté d'elle et d'observer ça, j'ai un peu délimité 4 axes de réaction, je vous dirais. 4 réaction situationnelle. L'incrédulité et les questions qui vont suivre. Le sautage aux conclusions pour se rassurer soi-même devant cette tête étrange. Les félicitations malaisantes, on va y arriver. Et l'insistance pour forcer la consommation d'alcool. Ben, quittez-vous pas, là. C'est pas des attaques, c'est juste...
Non, c'est juste que à chaque fois quelqu'un... tu vas en parler, mais je peux dire pour moi qu'à chaque fois quelqu'un boit pas, je suis comme... Oh, tu sais, j'aimerais tellement ça, moi aussi, être capable de pas faire une félicitation malaisante.
Qui est très drôle. En tout cas. Et donc, maintenant, pour illustrer ces situations, imaginons un instant qu'elle n'aime pas le goût du chou sous toutes ses formes, hein, parce que on sait que les dérivés de chou, bon, je suis pas chimiste, mais j'écoutais Ricardo, non, j'écoutais une émission de télé, puis il parlait justement de la molécule qui s'appelle le phényl-thiocarbamide, je crois, ou PTC, qui est ce qui donne le goût puant au chou, le goût puant. Bref. Et comme il n'y a pas de chimiste dans la salle, je vais me permettre de faire un parallèle boiteux, mais imagé, entre la molécule odorante du chou et celle de l'éthanol. Donc, 4 axes. Le premier, quand on l'observe sous l'angle du chou, vous allez voir, ça devient un peu ridicule.
Ma blonde refuse un plat de choux de Bruxelles qu'on lui propose. Plutôt qu'acquiescer à son refus de ramener le plat en cuisine ou au pire lui confirmer, lui dire « Ah, c'est parce que t'aimes pas ça », ce qui est assez commun que le choux de Bruxelles soit honnête. On lui adresse plutôt ce genre de questions. « Ah, t'en manges pas? Ok. Est-ce que c'est un choix idéologique? Non? Est-ce que c'est par principe? Ah, c'est une diète. Ah oui, c'est la cure, là, pas de choux pendant un mois. » Donc, devant le déferlement de questions, elle énonce la simple vérité. Elle a pas le choix. « J'aime pas ça. » Et là, coup de massue. « Mais qui n'aime pas les choux de Bruxelles? » « T'aimes pas les choux de Bruxelles? Si tu veux, j'ai de la sauce. Si tu veux le mettre dessus, ça va goûter moins. »« Non? Ben, tu veux-tu du chou vert? J'ai du chou vert. Du chou rouge? »« Non, pas de chou rouge. » Aucune sorte. Ah ben là, le kale, come on. Le kale, si tu mélanges avec banane, des fraises et du chocolat, ça goûte même plus. Moi non plus, j'aimais pas ça avant, mais là, je me suis forcée, je me suis habituée au goût. Donc, pour une raison nébuleuse, vraiment, quelqu'un qui aime pas le goût de l'alcool, slash du chou, ça dérange. Ce qui m'amène à la deuxième situation. Le parallèle avec le chou, là, je vais le laisser tomber parce que c'est plus ou moins adéquat. Parce que cette situation-là amène son lot de préjugés, de raccourcis et d'idées préconçues qui, vraiment, je pense, s'appliquent qu'à l'alcool dans la société, peut-être à certains d'autres types de vices, comme on disait. Et donc, dans cette situation type, lorsque ma blonde refuse le verre qu'on lui offre, son interlocuteur, disons que c'est pas un ami ou quelqu'un qui est pas très, qui a pas envie de lui parler, il va sauter à des conclusions qu'il va soit garder pour lui, soit adresser à moi ou une tierce personne. Et ça va être un peu sur le ton de la question rhétorique, hein. « Ah, il s'est passé quelque chose. Elle a eu des mauvaises expériences. Il doit avoir un alcoolique dans sa famille. » Ah oui, je comprends, c'est parce que t'es autochtone. Parce que oui, ironie du sort, ma blonde a le malheur de ne pas boire et d'être autochtone. Donc voilà, autant s'arrêter là, hein, tout va bien, on peut encore... la terre tourne encore rond, elle ne boit pas, mais elle est autochtone, donc CQFD, nous sommes réconfortés. Troisième situation, et profitons-en pour revenir au chou. Ma blonde décline l'offre d'un amuse-gueule à la base de chou et son interlocuteur insiste. Allez, come on, juste un, là. C'est ma fête. Tu vas pas me laisser tomber le jour de ma fête. Come on! T'as même pas besoin de mâcher, tu peux juste l'avaler. Vite, 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 come on, juste un trait. C'est ma fête. Ah, tu veux pas me faire plaisir? OK. Puis là, il part. Avoir refusé, plus tard, avoir venir, avoir un chou dans son assiette. Ah, oh, tu t'es rendu compte que j'avais mis un chou dans ton assiette? Ben, mange-le, c'est pas grave. Rendu là, il est tout petit, ça dérangera pas. Hey, c'est moi qui les ai payés, les choux, là. Tu pourrais le faire pour me faire plaisir. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, peu importe le nombre de fois où elle dénoncera qu'elle ne souhaite pas consommer d'alcool, on va tenter de lui en imposer. Soit en passant par la culpabilisation, c'est ma fête, etc. La banalisation, c'est pas si pire, ça goûte pas si fort. Ou, quelle violence, l'imposition, en mettant de l'alcool dans son verre à son insu. Ce qui est beaucoup plus facile à réaliser quand un chou qu'une goutte d'alcool dans un cocktail. Je suis toujours la goûteuse officielle pour un vérifier qu'il n'y a pas de vodka dans son Bloody Caesar Virgin. Parce que même les barmaids sont bien intentionnés, mais au restaurant, ça arrive souvent là, qu'ils oublient le virgin. Bref, dernière situation, la plus loufoque, selon moi, on en parlait, et j'ai très peu de choses à dire dessus, fait que peut-être qu'on peut en discuter, parce que je sais même pas comment la saisir. C'est lorsqu'elle dit qu'elle ne mange pas de choux, c'est quasi systématique, hein, je vous dirais que c'est 95% du temps, elle reçoit des félicitations. Bravo, félicitations, hey, je devrais faire pareil, good for you. Hey, j'ai essayé, mais je pense pas que je serais capable. Donc vraiment là, pardonnez, excuse my French, là, mais what the fuck? Si tu trouves que c'est tellement bien de pas manger de sous ou de slash d'alcool, arrête ou juste laisse-la pas boire d'alcool. Donc, je sais bien que le parallèle entre chou et alcool, là, ça va pas marcher inévitablement pour toujours, mais je voulais prendre quelque chose qui était pas justement du chocolat, parce que le chocolat est quand même associé au vice à cause du sucre ou quoi que ce soit, donc rien de plus banal et vert qu'un chou. Mais à force d'essayer de comprendre, d'essayer de faire comprendre aux gens que ma blonde, si elle ne boit pas, c'est simplement parce qu'elle n'aime pas ça, c'est le mieux que j'ai trouvé, trouvant un autre aliment comparé avec l'alcool. Mm-hmm. Y a rien, y a pas de cachet. Elle veut juste pas boire d'alcool.
Mm-hmm. Oui. Voilà. C'est ça, j'ai une de mes amies aussi que c'était ça, c'était une stricte question de goût, mais qui ressent exactement la même chose que ta blonde, là. Elle me décrivait exactement les mêmes réactions de la surprise de « mais là, comment ça, que tu veux pas boire? » Et là, elle me disait que maintenant, elle était rendue à un âge où est-ce que avec des gens qu'elle ne connaît pas, si elle refuse de l'alcool, « ah, oh, c'est parce que t'es enceinte, fait que c'est correct. »
Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai.
Donc, c'est correct que tu boives pas. Puis, une des choses qu'elle disait, c'est le fait qu'elle ressentait cette pression sociale-là, mais que c'était comme une espèce de mentalité de mouton. Laissez-moi vivre mes choix. Mm-hmm.
Ouais, c'est drôle. Ouais. C'est ça, c'est drôle. Puis c'est surtout que, moi, je me dis tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils font si cette personne-là, par exemple, est alcoolique? Souvent, les questions sont tellement envahissantes. Laissez les gens leur jardin secret, là.
Absolument.
Si jamais il y avait une raison, tu sais.
Une vraie raison, ouais.
En tout cas, une raison plus qu'une question de goût, par exemple.
Absolument. Ben, c'est ça. Un de mes amis me disait, puis ça a été mon cas aussi, où est-ce qu'il racontait du fait qu'il avait pris des médicaments, des antidépresseurs,
aussi, oui.
Et que par conséquent, ça ne tentait pas de crier sur tous les toits qu'il prenait des antidépresseurs. Mm-hmm. Donc, c'est profondément malaisant parce que tu t'es toujours posé des questions sur ta raison d'arrêter de boire, mais en même temps, dans un contexte social, avec tes proches, c'est correct. Avec des gens qui ne sont pas tes proches, ça te tente pas nécessairement de t'étaler sur pour plusieurs raisons, entre autres parce que l'alcool est un dépresseur, tu pourrais te mettre à pleurer et ce n'est pas nécessairement une super bonne idée dans un contexte social.
Ouais. Peut un peu gâcher l'ambiance.
Un petit peu, tu sais, ou un autre de mes amis qui lui a eu des problèmes de reins. Mais c'est ça, c'est le même principe que c'est dangereux. Que, tu sais, de te dire, ah ben là, comment ça se fait que tu bois pas parce que tu t'es posé la question pour des questions de santé.
On passe vraiment d'une extrême à l'autre.
Oui, c'est-à-dire,
là, on va jouer, on va jouer, mais on va parler des jeux d'alcool.
J'ai toujours rabaissé le niveau.
Mais on t'a appelé pour ça, mais c'est correct! Oui,
non, mais le pire, c'est que c'est super intéressant, puis en fait, je me retrouve dans plein de choses qui se disent.
Mm-hmm.
Puis là, ma position de game designer, ça fait que je vais parler de jeux d'alcool.
Mais c'est ça!
Mais en fait, je parle quand même de bons jeux d'alcool. Je vais m'expliquer.
D'accord.
C'est que quand on pense aux jeux d'alcool classiques comme le beer pong ou les quarters, le beer pong, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est il y a 6 verres d'une barre et l'autre de la table, puis il faut lancer une balle de ping-pong dans le verre, puis la personne, il faut qu'elle boive le verre quand la balle de
ping-pong. Merci de me faire mon éducation, je connais vraiment rien à dire.
Puis les quarters, c'est il y a plein de verres au centre. Les quarters, c'est ça, il y a plein de verres au centre de la table, puis il faut que tu cognes un 25 sous sur la table pour leur faire bondir dans le verre, puis après ça, la personne, il faut qu'elle boive.
Très populaire, ça aussi.
C'est très populaire, sauf que ça pète les tables.
Ah.
Moi, j'ai joué à quelque part, puis ma tante était vraiment pas contente.
Okay.
Fait que les quarters, c'est fini. Puis le beer pong aussi, c'est salissant en dedans. Tu sais, maintenant, quand je me retrouve à jouer au beer pong, c'est dans les gros parties dehors, par exemple.
Okay.
Parce qu'il y a comme il y a des installations faites pour ça.
OK, carrément.
Donc voilà. Fait que là, on vient trouver. L'autre chose aussi qui est comme pas correct avec le beer pong particulièrement, c'est que ça mène une dimension de compétitivité au jeu d'alcool qui fait que c'est là qu'on a des abus parce qu'on te force à boire le verre parce que la balle est rentrée dedans. Ou là, tu veux vraiment gagner, fait que tu vas en jouer un autre parce que le tournoi, il faut qu'il continue. Mm-hmm. Ou des choses comme ça. Puis là, c'est là que ça amène à des abus au lieu de le faire de bonne foi, dans le fond. Fait que voilà. Donc, je vous ai trouvé quelques alternatives. Des alternatives propres et simples à apprendre qui vont vous garantir une bonne cuite avec vos prochains pendant les fêtes.
Noël!
Ouais, c'est ça. Puis, pendant que votre chum ou votre blonde vous regarde en roulant les yeux. Là. je préface tout ça aussi en disant, même si on le sait, c'est comme un peu le Fight Club, les drinking games. Il y a juste une règle, c'est qu'on conduit pas après.
C'est oui, simple. C'est très important.
C'est tout. On fait juste pas conduire, puis ça, tu peux boire tant que tu veux.
Si boire de l'eau, après, ça aide, mais pas conduire, c'est beaucoup plus important.
Oui, effectivement.
Et comment aussi. Hein?
L'éviter, c'est toujours mieux.
Fait que, OK, premier jeu. En fait, c'est une application que j'ai trouvée qui s'appelle Piccolo.
Okay.
C'est gratuit. Puis comment ça marche? C'est super simple. Tu downloads l'application, tu mets le nom de tous les gens qui veulent jouer. Tu fais juste taper leur nom. Puis après ça, à chaque fois que tu tapes sur le téléphone ou la tablette, whatever, il y a soit un jeu, soit un truc comique qu'il faut que la personne fasse, ou sinon, il faut qu'elle donne des gorgées ou elle donne des gorgées aux autres, dans le fond. Fait que ça se joue avec des gorgées, fait que tout le monde, faut qu'il y ait un verre, mais tout ce que tu as besoin, c'est que quelqu'un autour de la salle ait un cellulaire,
ouais,
tu
ouais.
mets les noms, puis ça se fait super simplement. Puis là, tu vas avoir des exemples comme... t'es-tu capable de toucher ton nez avec ta langue? Puis là, si c'est toi qui as tapé ça, faut que t'essayes. Puis si t'es pas capable, mais là, c'est toi qui bois. Sinon,
okay.
si t'es capable, tu donnes 3 gorgées aux gens autour de la table.
OK.
Ça, c'est important. Les circonstances dans lesquelles on joue à des drinking games, là, c'est quand même important. L'expérience, on veut la faire soit avant d'aller à un party, parce que ce qu'on appelle le pre-drink.
Oui, oui, oui.
Parce que ça te met dans un mood un peu plus ludique.
Oui, oui.
Fait que là, tu sors, puis t'es déjà sur le party
joyeux,
un peu,
oui.
C'est ça, exact. Ou tu veux l'utiliser quand ton party est plat.
Ah, bon
quand
point.
Quand les conversations commencent à mourir, ou que les gens sont trop gênés dans la place, puis que
ouais,
là tu veux,
on parle de jeu. Ouais,
tu
ouais.
veux un peu forcer le lubrifiant social qui est l'alcool, mais là c'est là que tu peux sortir les drinking games.
Très bonne remarque.
Forcer le lubrifiant social. Il y a plein de choses que je trouve extraordinaire, je tenais à le dire.
Formulation trademark ici. Okay. Le deuxième est spécifique à Noël. Ok, ça se joue jamais à aucun temps dans l'année à part à Noël. J'appelle ça
le Noël du campeur.
Ça s'appelle le Home Alone Drinking Game.
Ah, okay? Ben ouais.
Ça veut pas dire qu'on boit tout seul. Ce que ça prend, c'est ça prend Home Alone qui joue à la télé.
Ouais, ouais.
Puis là, pendant les fêtes, je t'ai ouvert ta télé. T'as 50% de chance qu'il soit là. La règle générale, c'est on prend une gorgée de son verre à chaque fois qu'on voit les situations suivantes dans le film. Ok? Fait que soit qu'il y a un personnage qui insulte le petit Kevin, qui est joué par Macaulay Culkin. Un personnage qui dit le mot pizza, Paris ou polka.
OK. Ah, okay. Oh, polka. Ouais. Oui, oui.
Ce shot-là est bon. Moitié de la bière, n'a pas assez. Ouais. Une personne se fait mal dans le film.
Oh boy.
Donc, c'est plus vers la fin où est-ce que les voleurs commencent à se faire des bobos. Puis où que Kevin crie, se parle à lui-même ou insulte quelqu'un.
Nice.
Garantie qu'une caisse de 24 est finie si vous êtes 3-4. Ouais, ouais.
Attention que les schtroumpfs sont plus extrêmes.
Ouais, c'est ça.
Wow.
OK. Un autre jeu que j'ai trouvé aussi en ligne que je trouvais vraiment drôle, ça prend une tuque de Père Noël puis une télé, OK? Puis ce que tu fais, c'est tu mets la tuque sur le coin gauche, en haut à gauche de ta télé. Puis là, tu mets un film ou tu mets une émission,
quoi,
whatever. Puis à chaque fois qu'il y a un personnage dans le film ou l'émission qui se retrouve à en fait porter la tuque,
oui.
Parce qu'il passe de la gauche de l'écran, il se retrouve à porter la tuque dans le coin, faut que tu prennes une gorge.
J'ai vu des photos de ça, c'est très très drôle.
C'est vraiment drôle, puis ça fonctionne surprenamment souvent.
Oui, OK.
J'ai fait le petit test, là, puis oui. Honnêtement, oui. Rapidement, il y a beaucoup de gens qui viennent de la gauche dans les écrans.
Vrai?
On le remarque pas, mais... le troisième film, c'est un de mes préférés. Ça s'appelle les personnages de film. Ça prend un maître de jeu qui est normalement la personne qui va conduire.
Oui.
Puis ça prend une liste de films. Puis la règle générale, c'est le maître de jeu, il donne un nom de film. Puis la première personne qui nomme le personnage principal du film a le droit de distribuer deux gorgées à n'importe qui autour de la table. Bonus rule, si tu nommes l'acteur qui joue le personnage aussi, t'as un autre gorgée à donner. Fait que tu peux te retrouver jusqu'à trois gorgées.
OK.
Fait que là, par exemple, si je dis Shawshank Redemption...
Je connais juste Tim Robbins.
Tim Robbins, c'est une gorgée, c'est déjà. Une gorgée. Fait que là, t'aurais une gorgée à distribuer. Puis okay. C'est Andy Dufresne, le personnage.
Oui.
Ou si on dit le parrain.
Don Corleone.
Michael Corleone avec Al Pacino.
Oui. Okay.
Yes. Puis le silence des agneaux.
Anthony Hopkins.
Ben, tu vois, pis c'est là que c'est drôle aussi parce que là, ça fait des dynamiques d'ostinage autour de la table aussi. Parce que là, probablement que ça aurait été Clarice, la personnage principal qui est jouée par Jodie Foster.
Oui.
Mais
ouais,
effectivement, que tu sais, Hannibal Lecter aussi.
On s'entend.
Assez bon, ça vaut la peine.
Ouais.
Un petit dernier. Hélas.
Ok, pis ça, c'est moi qui l'ai inventé en plus.
Oh!
Ok, c'est le Drinking Game de Gilmore Girls. Ok? Grand fan des Gilmore Girls ici. Puis là, en plus, ils sont sur Netflix, fait que ça se prend deux secondes.
Oui, ça
fait qu'on boit quand Luke apparaît avec une casquette, Rory ou Lorelai boivent du café ou mangent.
C'est tout le temps.
Rory a un livre dans les mains.
Ok, oui, c'est vrai.
Michel apparaît à l'écran parce qu'il y a Nick Truesdale, des Québécois. Ou Rory ou Lorelai font une référence à la culture populaire.
D'accord. Ça, on va être sous.
Garantie, bonne cuite pendant les fêtes.
Ben, juste le café, là, c'est garanti. Écoute, il aurait manqué la pizza, puis ça y est, là.
On doit se quitter là-dessus. Il y aurait eu d'autres jeux, je pense, à dire, mais là, on doit comme arrêter. Moi, je vous rappelle qu'on a parlé de l'alcool, on s'est bien amusé, on a bien ri, mais la modération a bien meilleur goût. Donc, essayez de pas boire des hectolitres de vin et de bière et de spiritueux et de cocktail durant les prochaines semaines. Votre santé, votre foie va mieux s'emporter et tout le monde autour de vous aussi. Moi, c'est ma dernière émission comme animatrice, donc je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, un bon temps des fêtes en général et on se retrouve en 2017.